19h,
FIBD 2023, on redécouvre un éditeur que l'on connaissait il y a 2 ou 3 ans, les éditions Paquet, et pour cela nous recevons 2 auteurs qui ont sorti une bande dessinée ensemble. Nous avons Monsieur Voreau et François Lapierre. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous êtes donc nos invités pour une bande dessinée, un projet commun que vous avez qui s'appelle L'Agent Double, un projet que vous avez dessiné tous les deux. C'est que d'habitude on a l'habitude qu'il y ait un scénariste ou un dessinateur, et là vous avez tous les deux dessiné.
Exactement.
Justement, on va pouvoir aborder un petit peu cette approche un peu unique. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble?
On se connaît depuis très longtemps, moi et François. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la bande dessinée au Québec. Puis on voulait travailler ensemble. Puis après ça, il fallait trouver le concept parce que nos deux styles sont très différents. Mm-hmm. Donc, deux styles différents, deux réalités très différentes. Quel personnage pourrait se retrouver dans deux réalités différentes? Un homme qui vit avec la schizophrénie. Et à partir de ce moment-là, le concept s'est mis en place. On voulait raconter l'histoire d'un homme qui avait une réalité très différente du monde qui l'entoure. Mm-hmm. Moi, comme j'ai un style de dessin un peu plus réaliste, j'ai décidé d'illustrer toute la partie réelle, la caméra extérieure qui filme le personnage et qui montre un peu ce qui se passe autour de lui. Puis François, je te laisse expliquer ta partie.
Mon dessin est plus...
N'hésitez pas à vous approcher un tout petit peu du micro.
Mon dessin est plus expressionniste, entre guillemets, donc et déjanté. Donc moi, je m'occupe de toute la partie qui est imaginaire et fantasmée du personnage. Tout ce qu'il imagine, en fait, qui n'est pas forcément réel, mais qui peut-être l'est aussi. Donc, on a un jeu un petit flottement pour le lecteur, en fait, là-dessus.
Parce que la schizophrénie, effectivement, j'imagine que ça a un bon potentiel scénaristique. On peut imaginer beaucoup de choses. Vous avez aussi, j'imagine, fait des recherches sur le sujet pour arriver à concilier un petit peu ce que vous vouliez
faire
passer, et tout en restant un minimum réaliste aussi.
Tout à fait. Mmh. On voulait faire une bonne histoire. C'est un thriller, hein? C'est une bonne histoire d'action. Il y a des moments drôles, il y a des moments très tristes et un peu plus lourds, bien évidemment. Mais on voulait respecter les gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Pendant toute l'écriture du scénario, j'ai été en collaboration avec Santé mentale Québec, qui est le gros organisme au Québec qui aide tous les gens qui sont pris avec des problèmes de santé mentale. Puis j'ai eu la chance d'avoir dans mes cours de dessin un psychologue. J'ai des amis que leurs parents sont touchés par la schizophrénie ou des proches. Vous savez qu'une personne sur 3 pendant sa vie va être touchée de très près par un problème de santé mentale. Donc, c'est juste qu'on n'en parle jamais. On met tout ça en dessous de la table, puis on n'en parle pas. Mais quand on commence à expliquer que notre prochain projet de bande dessinée traite d'un homme qui vit avec la schizophrénie, à tout d'un coup, on a beaucoup de gens qui s'ouvrent puis qui nous racontent leur histoire.
C'est vrai, ça.
Comme vous l'avez dit, c'est un peu un sujet tabou. Quand ça nous arrive, on se dit, je dois être le seul, je ne veux pas passer pour un
fou.
Marginal, pour
oui,
un fou.
Oui, oui.
Et au final, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Et donc, vous avez pu recueillir des témoignages, vous en inspirer et donc rédiger L'Agent Double. C'est un scénario qui a pris longtemps à écrire.
C'est une histoire qui a pris vie, ça fait presque 10 ans déjà. À l'époque, moi et François, on bossait tous les deux pour des gros éditeurs qui ne voulaient pas du tout parler de santé mentale. À l'époque, on disait tout simplement des maladies mentales, des malades mentaux. C'était quelque chose de très tabou. La COVID a ouvert les esprits énormément parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là, de santé mentale. Et c'est à partir de ce moment-là que justement l'ouverture est arrivée. J'ai vu que c'était le temps de ressortir ce scénario-là puis de le proposer à nouveau aux éditeurs. Et puis, lorsqu'on a fait le tour, il y en a encore qui étaient un peu sur le frein, sur le break, on dit au Québec. Ils voulaient toujours pas en parler. Paquet avait une ouverture vraiment, vraiment extraordinaire. Ils étaient emballés par le projet. Et puis, ils nous ont dit, ça nous ferait vraiment plaisir de travailler là-dessus avec vous. Et c'est à ce moment-là que l'histoire vraiment a pris vie.
Mais il y avait aussi le parti pris qu'on a décidé de... la direction qu'on a décidé de prendre, qui était... On n'a pas traité de la santé mentale comme un truc lourd, comme montrer comment les gens vivent avec ça, puis très didactique. On a décidé d'en faire une aventure, une histoire qui comme n'importe quel être humain pourrait vivre, un truc un peu policier, un polar. Donc, c'est rare qu'on utilise des personnages comme ça pour les mettre dans la situation qui habituellement sont des aventuriers ou ce sont des gens d'action et tout. Mais là, c'est quoi? C'est ça. Donc là, c'est quelqu'un qui a son bagage qui est propre à lui pour en faire un truc, un thriller un peu, quoi que ce soit. Puis peut-être c'est ce que des fois les éditeurs, il y a une dizaine d'années et encore aujourd'hui, n'étaient pas certains. C'était comme une direction, un chemin qui avait jamais été balisé.
Oui, vous l'avez dit, donc ce n'est pas didactique. Donc on peut découvrir au fur et à mesure des aventures et de l'action, on découvre également aussi les obstacles psychologiques que rencontre le personnage.
Oui, et puis depuis 3 jours, on dédicace en librairie, puis on a rencontré plusieurs lecteurs. Puis il y en a qui nous ont dit, après lecture, c'est incroyable. Moi, j'ai un ami qui a vécu un épisode psychotique, puis ça, c'est vraiment ça. Ça me fait penser à ça, puis vous l'avez bien raconté, bien illustré. C'est certain qu'il y a des moments de folie qui peuvent être drôles, qui peuvent être tristes. On passe par un peu toutes les émotions. Mais si on essaie de cacher ça et d'adoucir tout ça, eh ben là, on se retrouve avec une histoire qui est pas vraie du tout. Et encore une fois, on cache les choses en dessous de la table. Mmh. Tu peux peut-être raconter, François, justement, le médecin qu'on a rencontré hier et qui nous a expliqué que son meilleur ami...
Ouais, ben ça, on faisait une dédicace à un médecin. Bon, on bavarde en même temps, on discute. Puis lui, son meilleur ami, en fait, ce qu'il interpellait dans l'album, avant même qu'il le lise, mais en voyant le résumé, c'est que son meilleur ami, à l'époque, il avait développé, en tout cas, elle s'était manifestée progressivement, parce qu'il était schizophrène, mais par les insatisfactions de ses parents envers lui-même, envers ses notes, ses études, puis qu'il était l'aîné de 7 enfants, donc ils ont mis une tonne de pression, il voulait être médecin. Il s'est rendu très loin, mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, on dit, donc, t'as dû trouver un vrai métier ou quoi que ce soit pour subvenir à la famille, à tes frères et sœurs plus jeunes. Puis là, il y a eu un déclic qui l'a fait progressivement... perdre un certain sens des réalités, à se mettre à paranoïer sur des trucs. Il jouait l'accordéon sur son balcon quand une voiture passait, il arrêtait de jouer jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Il se remettait tous des petits indices comme ça. Il a même essayé d'éventrer. Là, on est en train de dire des trucs qu'on ne veut pas dire à la radio. Il est en train d'éventrer. Il voulait essayer d'éventrer son frère de 2 ans. Il était convaincu que c'était un robot. Puis que là, il y avait des micros qui l'espionnaient partout.
Vous voyez aussi, ce qui est intéressant, c'est à chaque fois qu'on raconte une histoire comme ça, si on allait dans la vraie réalité, les lecteurs embarqueraient même pas parce que c'est... Ça paraît
c'est trop,
plus extrême que ce qu'on raconte.
Puis lui, donc, il nous racontait tout ça. Puis on a eu un bon échange, une bonne demi-heure. C'est le dernier client.
Ouais.
Et le lendemain, il est arrivé. Puis là, il écrit un message à Voro élogieux en disant, c'est exactement ça. C'est pis ça. Il y avait une photo de lui avec tous ses amis médecins, avec le livre. Ah, ils y ont été. Alors qu'encore une fois, c'est un parti pris qu'on a pris qui est loin du... l'ouvrage référentiel. Mais donc, ça a quand même touché des gens qui ont vécu ça de très près parce qu'ils se reconnaissaient là-dedans.
Parce qu'au final, vous mettez un peu l'emphase sur les émotions, sur les ressentis d'un personnage auquel, du coup, on peut éprouver de la sympathie, de l'empathie.
Absolument.
Et quand vous me racontez cette anecdote, ça pourrait dire qu'au final, les troubles psychiatriques peuvent venir de l'ordinaire, en fait, et de situations, qui, comme vous l'avez dit, des parents qui projettent quelque chose sur vous, un personnage qui, au final, n'est pas vous, et vous vous mettez à vous dissocier et à devenir être en conflit avec ce qu'on attend de vous.
Oui, il y a toujours un élément déclencheur. Mais si c'est en nous, ça va être n'importe quoi. Ça peut être les parents, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être anodin. Mais ça va se déclencher un jour ou l'autre si c'est en nous la schizophrénie, du moins. Donc le personnage principal, nous, l'élément déclencheur, on ne sait pas. L'histoire commence au moment où il y a un événement et puis on raconte une phase psychotique où lui tombe dans le délire. Sinon, ça serait un peu triste de raconter un moment où tout va bien.
Ouais.
Du coup, au niveau de l'approche graphique, vous avez dit que vous aviez un style chacun très différent pour illustrer les différentes facettes du personnage. Est-ce que vous vous êtes concerté un petit peu pour savoir qui allait, on va dire, exagérer dans un certain style, ou est-ce que vous vous êtes laissé le champ libre et vous avez vu à la fin ce que ça donnait?
Mais en fait, Vincent est resté fidèle à lui-même dans son dessin qui est semi-réaliste, on peut
quasiment dire réaliste, oui.
Ouais. Puis moi, j'avais un style qui était très déjanté à l'époque. Mm-hmm. Et là, oui, j'avais peut-être tendance naturellement à essayer d'assagir mon trait et mon dessin pour. Et Vincent me disait Vincent Bourreau, il me disait non, vas-y, laisse-toi aller, explore, éclate-toi dans ton dessin, dans ton graphisme. Bon, avec son scénario aussi, j'ai rajouté des trucs visuels pour qu'on interprète mieux l'imaginaire en fait du personnage, mais avec toujours une contrainte en guillemets de pagination, parce que moi, il fallait que mes pages soient le même nombre que celles de Vorot. Donc, je ne peux pas prendre 4 pages pour montrer le processus de délire qui pouvait se passer à une seule page dans la réalité. Donc, il fallait que je trouve des éléments visuels qui rapidement vont... d'où les tentacules récurrentes et d'autres détails comme ça visuels qui faisaient...
Ouais, qu'il comme François est un illustrateur complet, un auteur complet aussi, il a écrit des livres à lui, je voulais lui laisser un peu carte blanche. Moi, j'ai écrit le scénario. Après ça, j'ai dessiné 2-3 pages, puis j'ai envoyé ça à François, puis je lui ai dit, dessine la contrepartie de ces 2-3 pages-là. François mettait ses couleurs, parce qu'il y a un bagage de coloriste très, très approfondi, t'en parleras tantôt. Mais après ça, François me retournait ses planches, et puis là, moi, je terminais ma planche, la mise en couleur. Donc, on s'envoyait la balle comme ça, à chaque page. Puis, ça a été vraiment une collaboration très agréable, parce qu'on se surprenait l'un et l'autre, puis ça force à se dépasser un peu, puis à pousser, à monter la barre un peu plus haute à chaque fois.
Tout à fait.
Et est-ce que vous avez l'impression d'être allé au bout de ce que vous cherchiez dans ce livre?
Oui, parce que comme c'est un one-shot, on n'avait pas de deadline pour faire le livre. Mm-hmm. On pouvait prendre le temps qu'on voulait. On a vraiment mis le paquet pour pas faire de jeu de mots. J'ai vraiment mis tout le temps que je voulais sur chaque page. Et puis, de mon côté, en tout cas, j'aurais pas pu faire mieux.
Et au niveau de la réalisation, vous avez donc fait tous les deux le dessin et la colorisation également tous les deux?
Oui. Oui, chacun les notes. Comme Vincent disait tout à l'heure, moi je suis un coloriste de luxe, entre guillemets, sur le marché européen. Quand je dis de luxe, on s'entend, là. Mais je fais beaucoup les couleurs de Régis Loisel, de Alex Alice parfois. Mm-hmm. Donc, Magasin Général, La Quête d'Oiseau du Temps, Le Grand Mort, Julius, Troisième Testament. Donc, oui, c'est sûr que ça aurait été tentant que je fasse les couleurs des deux versions pour aussi faire un lien entre les deux, un lien entre les deux. Je pense que Vincent, c'est un excellent coloriste aussi, puis qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, mais en général, c'est moi qui faisais la coloration de mon côté avant, puis lui, il se calait sur un peu l'ambiance que je mettais pour faire les siennes. D'accord. Comme moi, je me calais... En fait, Vincent commençait à dessiner ses propres pages. Mm-hmm. Moi, après ça, je me calais sur ce qu'il avait fait pour faire le pendant symétrique ou asymétrique plutôt. Mm-hmm. Mais ensuite, moi, je suis incapable de dessiner une page sans la mettre en couleur immédiatement. De dire, non, mais je vais faire mes 46 planches ou mes 50, puis non, je suis comme un gamin qui. Non, j'ai un dessin, il faut que je le mette en couleur. Donc, aussitôt que j'en ai terminé un au dessin, je le mettais en couleur. Ça permettait aussi à Vincent, puis c'est un hasard plus qu'un plan de match, là, à dire, ah, ben, OK, comment ça? Fait qu'il s'orientait plus là-dessus. Ouais. Donc, ça a été vraiment une partie de ping-pong là-dessus.
Ouais. Et vous avez dit que vous n'aviez pas de deadline, que c'était du one-shot. Mm-hmm. Vous avez pu aller, donc, comme vous l'avez dit, jusqu'au bout. Ça vous a pris du temps, justement, pour arriver à ce résultat satisfaisant qui vous convient maintenant?
Oui, parce qu'on a beaucoup de boulot chacun de notre côté. Moi, je fais de l'illustration, je donne des cours de dessin, je fais de la bande dessinée. Donc, puis j'avais d'autres contrats de BD aussi à faire. François, il y a beaucoup de contrats de couleurs, ses livres à lui. Donc, on faisait ça un peu à temps perdu. Puis, on n'avait pas de deadline, ça nous permettait de prendre une pause quand on voulait, puis de retomber sur le projet. Mais, je vous dirais, quand on s'y est remis, on a mis quoi? 3 ans, peut-être, à faire l'album?
Ben, globalement, oui, mais il a été lent à démarrer, justement, pour, comme on en parlait, il y a peut-être une dizaine d'années.
C'est difficile à dire.
Mais dans le dernier tiers, là, quand on voyait la création d'un album atteint un point de bascule où ensuite ça va beaucoup plus vite par la maîtrise des personnages, par le scénario, et dans le dernier tiers, on dirait qu'en même temps, on s'est concentré assez à temps plein, là, comme si là, c'était vraiment avec un délai. Oui. Et là, ça a déboulé, et c'est beaucoup plus fluide de travailler comme ça aussi, globalement. Oui. Mais vu qu'on n'a pas de délai, on le glissait entre nos contrats, des moments libres et tout. Là. Ouais. Mais nous, les moments libres, c'est pas un dimanche après-midi. C'est là, j'ai 3 mois à moi pour faire ce que je veux. Donc, on le passait là-dessus, on avançait là-dessus. Donc, c'était quand même des bons blocs de temps consacrés à l'album, mais entrecoupés.
J'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur d'autres projets. Est-ce qu'il y en a qui sont à annoncer bientôt ou est-ce que vous préférez garder la surprise et le suspense et vous concentrer uniquement sur votre dernier ouvrage?
Oh oui, on va se concentrer là-dessus. Moi, j'ai un projet personnel qui est complètement différent. Chaque fois que je travaille sur un nouveau projet, j'essaie de me renouveler puis de faire quelque chose, de toucher à des sujets puis des lieux souvent que j'ai jamais dessinés. Mais j'aime mieux pour l'instant. Le livre est sorti hier, il est encore tout frais. On va mettre toute l'énergie sur l'agent double, puis après on parlera des autres choses.
Et justement, si l'on souhaite venir vous rencontrer pour des dédicaces, pour faire connaissance, à quels endroits et quels horaires peut-on vous trouver?
On est sur Angoulême pour encore jusqu'à la fin du festival. Pour,
les horaires, moi je me souviens pas. Est-ce que tu t'en... Demain, je crois, c'est de 10 à midi.
Alors voilà, 12h, 14h, demain à la librairie Cosmopolite, galerie commerciale du Champ de Mars à Angoulême. L'après-midi, rendez-vous sur le stand Paquet. On va pouvoir vous rencontrer, 16h, 18h. Et dimanche, on recommence, librairie Cosmopolite,
de 11h à 13h et de 15h à 17h. Vous venez souvent sur le festival d'Angoulême?
Moi, c'est la deuxième fois.
Moi, c'est la quatrième fois. J'étais venu 3 fois. On vient presque à chaque année à un festival. On essaie d'en faire des différents aussi pour pas que la France se fâche après nous. Mais on peut pas venir à plus qu'à 1 ou 2 festivals par année parce que ça représente quand même quelques semaines de travail de perdu. Puis on doit choisir.
Eh bien, parfait. Donc, l'agent double, un projet de Vincent Voreau et François Lapierre à gagner très bientôt sur l'antenne Attitude. Messieurs, merci et bon festival.
Merci à vous.